Bonjour et bienvenue au podcast Histoire de s'en jaser. Cette semaine, Maïté et moi, on reçoit Gabrielle Royer-Kennel. Première fois que je l'ai rencontrée, je savais pas que son deuxième nom c'était Kennel, donc je l'ai appelée Gabrielle Royer. Puis ensuite, quand j'ai appris que son nom c'était Kennel, je l'ai appelée Kessnel. Puis j'aimerais ça qu'on se souvienne de lui comme Gabrielle Royer-Kessnel. Donc, Gabrielle, salut!
Bonjour, Rose.
Cette semaine, tu viens nous parler la rencontre entre un prieur dominicain, Jean Gobi, et l'esprit de Guillaume de Corvaux dans la ville d'Alès, en France méridionale, au 14e siècle.
Absolument.
Wow! Je fais ça comme une championne.
Oui, vraiment, sincèrement. Moi, il y a eu plusieurs points d'interrogation dans ce sujet, cette problématique, même si j'ai lu le magnifique travail de Gabrielle. Alors, peut-être pour commencer, Gabrielle, pourrais-tu nous en dire plus sur ce sujet? Donc, pourquoi, en fait, as-tu fait un travail là-dessus et c'est quoi l'intérêt de la problématique que tu as développée?
Tout d'abord, ce cours-là, au départ, il fallait parler à un autre prof du programme pour en fonction de notre intérêt. Puis ben moi, étant quelqu'un qui s'intéresse au Moyen-Âge, ben j'avais une option qui est le professeur Didier Méhu. Et ben moi, je revenais de faire un travail sur les fées et sur le merveilleux, et je voulais un peu rester dans cette thématique-là, de travailler un peu sur des travaux, des sujets, on pourrait dire, pas merveilleux, fantastiques, un peu dans cette veine-là. Et c'est Monsieur Méhu qui m'a conseillé d'aller explorer les exemplats, qui est un type de récit sur lequel on va sûrement revenir au cours du travail. Et en fait, ben j'y suis allé avec la proposition qu'il m'a fait. Je connaissais pas cette histoire-là avant, et c'est lui qui me l'a proposé. Et je suis allé la lire et ça me tentait dès le début de travailler là-dessus. Les revenants, les fantômes, c'est des trucs que je trouve assez intéressants. Et ça a été quand même assez bien édité, là. C'était un travail qui était autant intéressant que facile d'approche. Donc, ça se prêtait bien au jeu pour le cours d'activité d'intégration et de transition.
Super. Et puis, avant de pousser un peu plus sur le sujet, est-ce que tu t'es toujours intéressé à l'histoire, en fait, médiévale? Pourquoi as-tu poussé tes études en histoire?
Ben moi, l'histoire, en fait, ça a toujours été une sorte d'intérêt passif ou secondaire, c'est-à-dire que je trouvais ça intéressant, mais pas nécessairement pour en faire une carrière. Je voulais, jusqu'au cégep, moi, je voulais aller en droit. C'est au cégep, toutefois, que j'ai compris assez rapidement que j'avais ni la motivation, ni le talent pour aller étudier en droit. Et en fait, j'ai donc décidé, en fait, c'est un prof du cégep Garneau, Luc Laliberté, qui, en suivant son cours, ça m'a convaincu direct d'aller étudier en histoire à l'université. Et en fait, durant ma première session, c'est là que j'étais pas sûr encore en histoire américaine ou l'histoire médiévale. L'histoire médiévale, c'est surtout né avec, moi, je suis pas le seul dans cette situation-là, mais un jeune kid qui joue à des jeux de rôle, qui joue à genre World of Warcraft, puis qui aime Seigneur des Anneaux, trucs comme ça, ben je m'étais toujours intéressé à ça. Mais je m'étais pas, puis je faisais du grandeur nature et trucs comme ça, mais je m'étais jamais vraiment intéressé à genre la actual histoire. Et non, comme les interprétations qu'on en fait. Fait qu'on pourrait dire que comme avant d'être médiéviste, j'étais médiévaliste. Et en fait, c'est les cours de Monsieur Didier Méhu qui m'ont comme convaincu directement là, de poursuivre en histoire médiévale. Puis c'est ça, à force de faire des cours avec Monsieur Méhu, ben j'ai été de plus en plus convaincu que c'était là-dedans que je voulais poursuivre mes études.
Génial. Puis, si je comprends bien, là, maintenant, justement, t'es rendu à la maîtrise en histoire médiévale à l'Université d'Ottawa, c'est ça?
C'est exact.
Parfait. Bon, on pourrait parler de ton sujet de maîtrise pendant des heures. Je vais pas trop te questionner là-dessus parce que c'est pas pour ça que t'es là. En fait, t'es là pour nous parler, justement, de cet entretien entre Jean Gobi puis Guillaume de Corvaux. Ou en tout cas, l'esprit de Guillaume de Corvaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte général de cet entretien-là, comme pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, où c'était, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge à ce moment-là? C'est quoi le Moyen-Âge?
Ce que c'est le Moyen-Âge, c'est une bonne question.
Rose, ça, c'était une grosse question.
Pour le contexte général, il y a quand même plusieurs éléments à prendre en compte. Donc, on est dans le premier quart du 14e siècle, dans le village d'Alès. À cette époque-là, bon, c'est un village qui existe encore à nos jours. C'était déjà à ce moment-là quand même un village d'une pas pire importance, quand même peuplé. Situé dans le département du Gard en Occitanie, fait que genre vraiment au sud de la France, un petit peu au nord de Nîmes, Avignon et Montpellier. La proximité avec la ville d'Avignon, ça, c'est vraiment à retenir parce que ça, cette période-là coïncide avec la papauté d'Avignon, qui s'étend de 1309 à 1378.
C'est quoi?
Ouais, en fait, c'est ça à quoi je viens. Et en fait, c'est durant cette période-là, en fait, le siège pontifical se déplace, autant le siège pontifical et sa cour se déplacent à Avignon. Et c'est là qu'ils vont être, donc plutôt qu'à Rome. Plus tard encore, il va y avoir aussi le grand schisme d'Occident où il va y avoir un pape à Rome et à Avignon, mais ça, c'est plus tard. Et donc, la ville d'Alès, étant près d'Avignon, a des liens assez importants avec la papauté, et ça, c'est important, ça nous permet de comprendre un peu dans quel contexte le récit s'inscrit. Un autre élément important à considérer, c'est l'essor des ordres mendiants, parce qu'en fait, l'interrogateur, Jean Gobi, c'est un dominicain. Et les ordres mendiants, en fait, à cette époque-là, on a les principaux, on a les franciscains, donc issus de Saint-François d'Assise, et les dominicains qui sont issus de Dominique de Guzman, les deux étant des clercs, on pourrait dire, ayant vécu au 13e siècle. Et donc, les membres de ces ordres-là, c'était surtout des prédicateurs, c'était ça leur fonction. Et pour reprendre l'expression de M. Méhu, en fait, ces prêtres-là, c'était des véritables rockstars. Ils étaient vraiment très populaires. Et leur prédication, c'était surtout des histoires, des petites histoires moralisantes ou à but le moralisateur, qui se prêtaient très bien donc à, on pourrait dire, à les raconter en public. Et ce qu'ils racontaient, en fait, c'était surtout des exemplats, le singulier exemplum, et qui connaissaient un succès vraiment monstre au 14e siècle. Grosso modo, un exemplum, c'est quoi? Ce sont des petits récits qui sont vraiment généralement assez courts, qui comportent beaucoup d'éléments de merveilleux, on pourrait dire, de fantastique que je mets ici en guillemets. Généralement, il y a de l'action, il y a quelque chose d'invraisemblable, souvent comme on a ici avec la présence d'un revenant, et ils cherchent généralement à communiquer un certain message. Pas nécessairement de manière explicite, mais il y a une leçon à retenir de ces exemples-là. Et donc, on les retrouve souvent dans des recueils. Et bon, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au 14e siècle, c'est vraiment populaire. Ensuite, il y a un autre enjeu précis, c'est que Jean Gobi, c'est un prieur, donc c'est le second, on pourrait dire, de l'abbé. Dans un couvent, bon, il y a l'abbé et le prieur dans ce couvent-là. Jean Gobi, donc c'est ça, c'est un prieur, donc il a des fonctions administratives, mais il est aussi connu pour ses écrits. Il est surtout connu en fait pour sa Scala Coeli, qui est un recueil donc d'exemples. Donc il écrivait pas mal ce genre de truc.
Est-ce qu'on peut comparer les exemples à des fables de La Fontaine où c'est vraiment... Vous voyez pas la face présentement de Gabriel, mais il y a comme une sorte de point d'interrogation. Mais, tu sais, est-ce que ça avait le même genre de but?
Je connais pas vraiment assez les fables de La Fontaine pour me prononcer là-dessus, mais... les deux ont un message effectivement à divulguer, puis message qui est souvent implicite, puis qu'on retrouve dans l'action des personnages, puis dans leur choix. Alors, peut-être.
Mais je pense que l'exemple-là, c'est peut-être plus particulier à l'univers médiéval, parce que La Fontaine, il s'est pas inspiré de l'époque médiévale, il s'est inspiré beaucoup de l'époque ancienne. On en avait parlé un petit peu dans un autre épisode, mais finalement, la plupart de ces récits sont copiés ou fortement influencés par un auteur ancien. Son nom, c'est... Je vais revenir avec ça plus tard.
On va le mettre en annexe, ouais. Comme on met tout en annexe dans les podcasts. Voilà.
Donc, les exemples-là... Pour finir, juste garder en tête, en fait, généralement, c'est le fun à lire des exemples-là. Il y a des choses qui se passent, c'est pas de la moralisation chrétienne extrêmement lourde. Justement, c'est à visée populaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, on est dans le coin de Noël, en 1323 ou 1324. C'est pas certain. Et c'est donc une femme récemment veuve qui vient cogner à la porte du couvent des Dominicains d'Alès. Elle a vraiment peur, en fait, elle semble apeurée, et elle vient implorer l'aide des religieux. Pourquoi? Parce que son mari, décédé une semaine plus tôt, il serait en train de la hanter dans son domicile. Et en fait, à l'époque, ce genre de choses-là, c'est pas quelque chose qui est nécessairement tant hors du commun. On sait que ce genre d'événement-là est possible, entre guillemets, et donc les Dominicains acceptent de se rendre sur les lieux. Jean Gobi, donc, se rend accompagné de, d'autres prêtres et sur plusieurs jours, donc, se déroule un interrogatoire avec l'esprit. Donc, il réussit à conjurer l'esprit et lui parler. Ça, donc, l'histoire, c'est un peu une sorte d'exorcisme pacifique, donc, à travers l'interrogation plutôt que à travers ce qu'on pense directement quand on pense à exorcisme, donc avec la croix puis l'exorcisé qui vomit puis qui se convulse.
On pourra vous mettre en annexe une photo d'un exorcisme d'un
film
d'horreur.
Ouais, ben moi, j'ai tout de suite pensé à celle de La Conjuration. Tu sais, la scène finale dans La Conjuration.
J'écoute pas de films d'horreur, donc c'est Maïté qui va créer les annexes pour ce podcast-ci.
Ça va me faire plaisir. Mais revenons à cette histoire. Premièrement, avant qu'on s'y plonge, comment cette histoire-là a été conservée? En fait, puis par la suite, est-ce que tu pourrais développer sur pourquoi cette histoire est aussi intéressante pour comprendre certaines structures, finalement, là, du Moyen-Âge?
Pour la première question, ce récit-là est quand même parvenu par plusieurs versions différentes, dans vraiment quand même beaucoup de manuscrits, là, autant en latin, en français, mais en d'autres langues aussi. D'abord, c'est l'écrit de Jean Gobi, c'est le traité « De Spiritu Guidonis », qui est comme, ça veut dire genre au sujet de l'esprit de Guy. Puis si on regarde sur Arlima, qui est un site archive de littérature du Moyen-Âge, qui répertorie en fonction des sujets les manuscrits, puis qui existe en fonction d'un sujet choisi. Et donc, il existe dans beaucoup de manuscrits en Allemagne, en Belgique, en Angleterre. Il existe donc des traductions françaises avec des titres qui peuvent varier, là, dont « Un bel miracle de Guy de Tarnot » ou encore un que j'aime bien, « Disputation faite j'appiessa entre l'esprit d'un homme trépassé et un prieur des frères prêcheurs ». Donc vraiment des titres qui peuvent varier. Et donc c'est non seulement à travers des manuscrits là, du 14-15e siècle et même des incunables. Les incunables, c'est la première génération des manuscrits, pas des manuscrits puisque c'est imprimé, mais des livres imprimés. La première génération, on parle de genre 1500, jusqu'à 1500 environ, c'est des incunables. Et donc c'est assez répandu, ce qui n'est pas étranger aux exemplats. C'est ça le but des exemplats, c'est fait pour être compilé et partagé et diffusé. Après ça, pour ce que ça peut nous dire sur les structures de la société médiévale, c'est une grosse question. Honnêtement...
Ben, si je peux préciser, là, on pourrait peut-être dire ça nous parle du décès au Moyen-Âge, ça nous parle de l'imaginaire médiéval. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Tu sais, pourquoi on parle d'un revenant? Ça existait un revenant dans le Moyen-Âge, puis c'est pas dans un film aka La Conjuration que ça se passe, là. Tu sais, comment se passe revenir? Rose, aide-moi. C'est clair? C'est pas clair.
Ben, en fait, là, je pense que ce que Maïté a essayé de savoir avec ça, c'est... étant donné que le récit parle d'un revenant, là, de Guillaume, de l'esprit de Guillaume de Corvo, est-ce que... La figure du revenant fait partie de l'imaginaire médiéval lié au décès. Puis, en général, dans l'imaginaire médiéval, puisque moi, je pense beaucoup à l'Antiquité, j'avais fait aussi une lecture dirigée sur la mort, puis il y a un imaginaire qui est assez vaste sur ce qui se passe avec les âmes après la mort, puis dépendamment de plusieurs choses, là. Donc, j'imagine que ça aussi, ça s'est probablement traduit à l'époque médiévale, parce qu'au final, il y a plusieurs des mœurs païennes qui demeurent quand même dans l'imaginaire chrétien, là, disons. Je sais pas si c'est plus clair comme question.
Ça l'est, en effet. pour comprendre un revenant, du moins au niveau étymologiquement, en fait, donc un revenant, c'est quelque chose qui revient, en fait. Donc, c'est pas juste un esprit ou un âme. Donc, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe quand on meurt. C'est complexe, surtout au Moyen-Âge, là, les théologiens se sont beaucoup obstinés là-dessus. Mais bon, on peut résumer, quand un individu meurt, il accède à une certaine version de l'au-delà, donc il varie en fonction des cosmologies, des mythologies, des croyances. Ça dépend aussi donc du jugement dernier, selon la religion chrétienne. Ça dépend aussi des actions du défunt durant sa vie, donc il va-tu au paradis, va-tu en enfer, etc. Puis l'au-delà, du moins pour ce qui est du monde chrétien, il faut considérer ça comme un envers du monde des vivants, en fait. Puis l'historien Jérôme Bachet, il dit que le monde médiéval, du moins comment est-ce qu'il concevait ça à l'époque, il peut pas se concevoir sans l'au-delà. L'au-delà, c'est un reflet du monde des vivants. Puis ça, c'est important quand on vient après ça comprendre les revenants.
Est-ce qu'on peut juste, je m'excuse de te couper, mais un peu comme le upside down dans Stranger Things, genre, c'est comme un reflet du monde régulier, mais c'est parce que ça fonctionnerait-tu un peu comme comparaison douteuse?
Ben,
on en fait souvent des comparaisons douteuses.
Tu sais, on a eu première Fort de la Fontaine, là, ouais. Stranger Things. Est-ce que c'est une bonne comparaison douteuse ou une mauvaise?
Ben, c'est une mauvaise comparaison, mais en fait, c'était si j'avais pas été interrompu, j'aurais justement fait cette comparaison-là. En fait, j'avais déjà prévu dire l'upside down. C'est pas une bonne comparaison, mais...
On s'excuse.
Mais effectivement, ça nous permet quand même juste de garder en tête que c'est lié, puis l'un ne peut pas être conçu sans l'autre. Et donc, bref, faut juste considérer que quand on meurt, on s'en va quelque part. Donc, il y a l'idée d'une translation, on pourrait dire, géographique, entre guillemets, dans un lieu précis. Et donc, un revenant, considérant ça, c'est un esprit qui va revenir dans le monde des vivants, pour une raison spécifique. Puis, il faut aussi comprendre que très rares sont les revenants qui vont revenir par, genre, pur loisir ou parce que ça leur tente. Les défunts, ils n'ont pas leur place dans le monde des vivants. Les deux se ressemblent, mais ils sont opposés en même temps. Et donc, les revenants sont généralement liés au monde des vivants contre leur gré. Et donc, ils peuvent prendre plusieurs formes, comme j'ai dit, en fonction des croyances et de la cosmologie. Le revenant qui est concerné ici, c'est donc l'esprit de Jean Gobi. C'est une forme qui est incorporelle, invisible.
L'esprit de Guillaume de Corvo.
J'ai dit l'esprit de Jean Gobi.
Ouais.
L'esprit, effectivement, de Guillaume de Corvo, mais l'esprit de Jean Gobi est aussi invisible et incorporel. Mais dans
d'autres... parce qu'il y a une différence entre l'âme et le corps, qui est vraiment très important, je crois.
Effectivement. Et c'est un thème qui est quand même assez important dans cet exemplum-là. Mais dans d'autres cultures, il peut prendre des formes diverses. Là, ce qui caractérise le revenant, c'est qu'il est un habitant d'un monde extérieur au monde des vivants qui va revenir. Comme chez les Scandinaves, par exemple, les revenants peuvent avoir une forme corporelle. On pense aux Draugr. Je le prononce probablement mal. Mais les gens qui ont joué à Skyrim savent de quoi je parle.
Dans Assassin's Creed, Valhalla aussi.
Aussi, c'est ça. Donc, c'est des revenants qui sont généralement associés à un lieu, et ça, c'est important, on va pouvoir y revenir. Donc, les Draugr sont associés à leur tombe, leur tumulus, et qui, bon, souvent, ils vont garder un quelconque trésor. Mais donc, l'important, c'est de comprendre pas nécessairement leur corps aux revenants, mais leur fonction. Parce que l'esprit défunt, il cherche pas à vivre dans le monde des vivants, c'est pas sa place. Et donc, c'est pas son monde, puis il est pas fait pour vivre là-dedans. Et donc, s'il revient, pour boucler la boucle, c'est parce qu'il est forcé. Il y a une tâche à accomplir, il y a un secret à protéger, il y a quelque chose à faire. Il revient pour une raison précise, puis c'est pour ça qu'il est dans le monde des vivants.
Ouais, ben un peu comme dans les films, ben encore une comparaison douteuse, là, mais ça m'aide à mieux comprendre. Mais c'est comme dans les films à l'eau de rose, là, quand il y a comme le fantôme de quelque chose qui hante une personne.
C'est
quoi
déjà le film, tu sais, la fille a fait de la poterie, là.
Ouais, ben, mais c'est encore avec Whoopi Goldberg. Ça fait deux podcasts en ligne qu'on parle de Whoopi.
C'est pas avec, non?
Oui, oui.
C'est lequel?
Oui, Whoopi est dans ce film-là. C'est avec Patrick Swayze aussi.
C'est mon fantôme d'amour?
Oui, c'est ça!
Bon, ben, vous venez d'entendre. Antoine, veux-tu te présenter?
Est-ce que c'est Demi Moore, l'actrice?
Je pense que oui.
Elle ressemble à ma mère. Allô, maman! Bon, ben, pour me présenter, moi, c'est Antoine et je suis l'invité de Gabriel qui ne parlera pas de nouveau. Merci, bonne soirée!
Ce fut bref, mais touchant. Merci, Antoine. Maintenant, pouvons-nous reprendre? On parlait des âmes. Là, il y a des bonnes et mauvaises âmes. C'est comme dans les films actuels, la conjuration, en fait. Ah. Excusez-moi.
Vas-y, on t'écoute pas.
Effectivement, en fait. Donc, les âmes, c'est un peu comme les vivants, en fait. Il y a des bons et il y a des mauvais vivants. Et donc, il y a des bonnes et il y a des mauvaises âmes. Il y a des méchants, il y a des bons. Et en fait... Comment dire, il y a plusieurs catégories dans ces catégories-là. Donc, il y a les bons, il y a les mauvais, mais il y a les vraiment très bons, il y a les vraiment très mauvais, il y a les un peu bons, il y a les un peu mauvais, mais bon, ça simplifie beaucoup les choses, mais oui, effectivement, les âmes sont dans une perspective chrétienne où est-ce que tout est soit vraiment bien ou mal, juste donné. Ben, les âmes sont donc le reflet des vivants.
Donc là, on a parlé finalement du fait que l'au-delà jouait quand même un rôle assez important pour la société médiévale, justement par rapport au classement des âmes, puis tout ça dans l'au-delà, basé sur les actions des vivants. Mais j'imagine, en tout cas, j'en suis pas certaine, mais j'imagine que l'Église a un rôle assez important par rapport à ça, et donc un rôle important dans la société. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de c'est quoi le jeu de l'Église là-dedans, finalement?
Ouais, bon, l'importance de l'Église dans la société médiévale, c'est vaste, c'est assez complexe, mais pour la comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps, remonter aux racines vraiment de l'institution, donc au premier siècle de notre ère. Bon, on sait que l'Église chrétienne, au départ, ça s'est développé clandestinement, puis ça a été progressivement accepté, non seulement en tant que religion, mais aussi et surtout en tant qu'institution, notamment avec le Concile de Nicée, le premier Concile de Nicée en 325, durant lequel, bon, l'Église va grosso modo établir la doctrine puis poser les bases de ce qui va suivre après pour le Moyen-Âge. Et son importance, ça vient entre autres du fait que c'est une institution qui, ça c'est bon, en quelque sorte on peut dire qu'elle a bénéficié, entre guillemets, de la chute de l'Empire romain, ou du moins, elle y a aisément survécu. Dans le sens qu'en 476, le christianisme, bon, c'était déjà très bien établi comme religion officielle de l'Empire. Puis contrairement à d'autres structures ou d'institutions, bon, l'Empire en soi, l'organisation sociale romaine, que en fait je connais pas vraiment trop, mais bon, plusieurs institutions de la société romaine qui ont progressivement tombé durant les derniers siècles de l'Empire. Mais l'Église, elle a subsisté, notamment parce que en convertissant les peuples barbares, entre guillemets, donc les Visigoths, les Ostrogoths, qui sont, on pourrait dire, en sont rapidement devenus les champions. Bon, il y a eu des hérésies au départ qu'on a dû régler, comme l'arianisme, mais donc les peuples barbares qui se sont implantés sur le territoire donc européen, bon, ont finalement tout adopté le christianisme au fil du temps. Puis sa puissance, donc, ça vient du fait que c'est une institution, parce que faut pas voir l'Église médiévale comme on la voit maintenant. Le concept de religion, c'est pas quelque chose qui peut vraiment s'appliquer au Moyen-Âge. Et avec son importante diffusion, donc dès les premiers siècles du Moyen-Âge, la cosmologie de l'Europe est déterminée par l'Église au final, qui va prendre en charge la vie des chrétiens. Est assez importante pour dominer la société. Puis la société, au final, c'est quoi? C'est l'Ecclésia. C'est la communauté des fidèles, la communauté des chrétiens. Et donc, au Moyen-Âge, si t'es hors du giron de l'Église, ben ça signifie de facto que t'es hors de la société. D'où l'importance de l'excommunication, qui aujourd'hui a plus de sens. Donc, les principes fondateurs de la société ou de la sociabilité médiévale, comme la caritas, sont issus des doctrines de l'Église. Et donc, on peut...
Excuse, la caritas, c'est quoi, rapidement, là, comme... Ouais, une traduction, là, pas nécessairement obligé d'expliquer le concept, mais...
Ben, on peut voir ça un peu comme la charité, un peu. C'est la fratrie, on pourrait dire, entre tous les chrétiens, cette espèce de lien qui va unir un chrétien à un autre.
La bonté chrétienne, dans le fond, un peu.
On pourrait dire ça, oui, mais ça, c'est effectivement quelque chose qui pourrait être développé plus longuement, mais grosso modo, c'est ça. Et donc, on peut y ajouter avec ces concepts qui gèrent la société. On peut y ajouter des considérations temporelles, donc la puissance du pape, qui n'est pas juste un chef religieux, le pape, c'est aussi un puissant seigneur, une sorte de monarque. Donc, le siège pontifical, il est au cœur de la puissance de l'Église, qui n'a pas toujours été au même niveau. Je parle donc des débuts de l'Église, mais jusqu'au 9e siècle environ, l'Église, oui, c'est une institution importante, mais qui est un peu secondaire aux aristocrates laïcs, l'empereur romain germanique, bon, Charlemagne, choses comme ça, qui vont contrôler l'Église. Mais avec la réforme grégorienne, progressivement, l'Église va acquérir une autonomie et un grand pouvoir, surtout le pape, là, qui va être affranchi de sa soumission directe au monarque laïque. Et donc, en fait, l'Église va dominer parce que c'est une institution puissante au niveau temporel, et avec ses biens et surtout son caractère intouchable avec la réforme grégorienne. Nombreux sont les clercs puis les églises, avec un E minuscule, qui sont exemptés des formes régulières de taxation puis de domination foncière et fiscale qui prévalaient à l'époque. Et l'aspect spirituel, encore plus important, hein, le monde tel qu'on le conçoit au Moyen-Âge, c'est quoi? C'est le monde de l'Église. C'est sa cosmologie, la cosmologie chrétienne qui va définir la conception du monde. Puis pour reprendre les mots d'historien Joseph Morcel, pour cette raison, surtout, en fait, l'Église ou l'aristocratie cléricale ecclésiastique constitue la faction dominante de la classe dominante. Pour préciser, au Moyen Âge, selon cette interprétation-là, il y a la classe dominante, l'aristocratie, et la classe dominée, on pourrait dire le peuple. Parmi ces deux classes-là, donc pour la classe dominante, il y a l'aristocratie ecclésiastique, qui est la faction dominante de la classe dominante, et l'aristocratie laïque, qui est la faction dominée de la classe dominante. Et donc, c'est pour ça que l'Église est aussi puissante.
Donc, l'Ecclésiaste, c'est comme le 1%, mettons, des gens les plus riches, mais si leur étendue de pouvoir, ben, si leur pouvoir s'étendait sur plus que juste le niveau financier, mais sur l'entièreté des pensées et de la culture de la société, mettons. C'est comme les gens en haut de la pyramide.
Ouais, c'est ça.
De la pyramide. Comme...
Exactement, c'est le top du top des tops.
C'est ça, OK. Parfait. Puis là, eux autres, ces top du top du top-là, ils jouaient un vraiment gros rôle par rapport justement à la mort, puis à ce qui se passe avec les hommes. Mm-hmm. Puis, si je comprends bien, dans le fond, c'est un peu eux qui décident si les actions que les gens ont menées dans leur vie fait qu'ils sont des bonnes âmes ou des mauvaises âmes, puis tout ça. Donc...
Ben oui, c'est eux. C'est-à-dire qu'ils doivent quand même suivre un peu la Bible, là, des choses comme ça. Là. Ça reste, c'est pas eux qui décident. Mais oui, effectivement, on pourrait dire, ils sont en charge du texte avec un grand T qui régit, on pourrait dire, le comportement des vivants. Donc effectivement, c'est eux qui ont le pouvoir de déterminer, on pourrait dire, si c'était bon ou mauvais. Bon, après ça, c'est Dieu là, qui va déterminer ça, mais l'Église, les clercs, ce sont les intermédiaires entre Dieu et les vivants.
Puis là, s'il y a des gens qui sont, ben, des âmes qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises, est-ce que c'est la même chose pour les revenants? Est-ce que, nécessairement, si une âme est sacrée un peu mauvaise, après ça, le revenant va être un peu mauvais, ou en tout cas?
Ouais, puis tu sais, en fait, y a-tu une gradation? Tu as parlé un peu de texte. S'il y avait des textes, ils disaient, OK, cette âme-là, c'est sûr, c'est mauvais si ça fait ça. C'est sûr que c'est pas l'Église qui a inventé techniquement tout ce qui est des revenants. Il y avait sûrement un imaginaire collectif qui était déjà là avec différentes cultures païennes. L'histoire de revenants devait pas être simplement chrétienne, mais on devait être comme réadapté à la chrétienté. Tu sais, c'est ça. Comment l'Église qualifiait, en fait, ces revenants-là? Comment, tu sais, il y a un bon, mauvais, c'est quoi? Le cas, mettons exemple, un prêtre était devant un revenant, par exemple, dans une histoire, comment il faisait, OK, y est-tu bon, y est-tu mauvais, c'est quoi qui se passe?
Ben, donc, c'est un peu... Les revenants sont pas nécessairement bons ni mauvais, mais ça dépend. Il faut classer un peu. Donc, il y a les revenants, il y a aussi les démons, des choses comme ça, donc qui sont pas tout à fait la même chose. Donc, un mauvais revenant n'est pas un démon. C'est deux choses qui sont différentes. Les revenants, comme l'esprit de Guy dit dans son interrogatoire, que il se fait demander si c'est un bon revenant, et il dit que non, il est fondamentalement mauvais parce qu'il doit revenir en quelque sorte. Donc ça implique que les revenants, de par leur nature, seraient, on pourrait dire, fondamentalement mauvais, parce que c'est pas nécessairement naturel, entre guillemets, de revenir, mais dépendamment des actions de ces revenants-là, ils peuvent être bons ou ils peuvent être mauvais. Comme l'esprit de Guy, on finit par comprendre que c'est un bon revenant dans la mesure où il revient pas pour tourmenter, ou du moins il tourmente sa femme ou la veuve, mais pas nécessairement parce que c'est ça qu'il veut faire ou par plaisir. C'est un peu, ça fait partie de sa propre peine. On va pouvoir revenir là-dessus, mais donc à cause de ça, on peut le considérer que c'est un esprit bon, en un sens, mais pas nécessairement bénéfique. Mm-hmm. Il y a cette petite nuance-là.
Puis, question peut-être un peu à part. T'as dit que c'est pas un démon. Les démons hantaient aussi, donc, ou hantaient, c'est peut-être un oui. Contemporain, là.
Ben, c'est un peu ça, oui.
Tourmentaient, oui. Mm-hmm.
Oui, ben, effectivement, il y a aussi les démons qui sont pas des revenants. Par exemple, l'épisode du moine Raoul Glaber qui raconte qu'il s'est fait hanter par un petit diablotin ou un démon. Il sait pas trop si c'est le diable lui-même ou une représentation, mais bon, le diable qui va arriver puis qui va le hanter, lui dire des mauvaises paroles, essayer de l'encourager d'arrêter d'aller à l'église, shaker son lit pendant son sommeil, des choses comme ça. Ça, c'est pas un revenant. C'est un démon. Et la distinction, c'est qu'un démon n'a jamais été vivant. Un revenant, c'est quelqu'un qui a été vivant et qui revient, alors qu'un démon, de base, son monde, c'est l'au-delà, c'est l'enfer. Et c'était pas un vivant avant. C'est ça la nuance.
Donc il revient pas finalement, le démon, il fait juste
aller. C'est ça. C'est un venant et non un revenant.
Puis là, d'ailleurs, maintenant qu'on est revenu sur les revenants en tant que
tel. On est revenu sur les revenants.
Hey.
Excellent.
Bon matin. Là, on a parlé vite un peu de à quoi ça ressemble un revenant puis tout ça, mais est-ce que tu aurais des choses à ajouter, tu sais? Est-ce qu'on peut les voir, ces gens-là? Est-ce qu'ils ressemblent à quoi?
C'est ça. L'affaire, c'est que on peut pas vraiment les voir. Ben, ça dépend encore, dépendant de quel type de revenant on parle, mais du moins pour le revenant ici, non, on peut pas le voir. Puis la raison de ça, en fait, c'est parce que le fait de voir, c'est fait à travers les yeux. C'est le corps. Mais ici, on a l'opposition entre le spirituel puis le charnel. Le charnel est en dessous du spirituel. Or, le revenant, il appartient au domaine spirituel. Et donc, le charnel n'étant pas au-dessus du spirituel, tu peux pas voir le revenant à partir de moyens charnels, en quelque sorte. C'est, je sais pas si c'est clair. Après, on peut l'entendre parce que, ben, le prieur parle au revenant, mais on peut pallier à ça par l'intermède de Dieu, par exemple. C'est parce que c'est Dieu qui permet, donc c'est convenient quand même, mais c'est Dieu qui permet. Mais de facto, on ne peut pas le voir parce que justement, voir, c'est fait avec les yeux et donc le corporel qui est sous le spirituel.
OK. Puis, justement, pour quelqu'un comme Jean Gobi ou les autres religieux qui étaient présents, quand ils ont été mis en contact avec le revenant, comment ils ont réagi? Est-ce que c'était assez commun pour eux de voir des âmes comme ça revenir puis d'avoir un travail à faire relatif à ces âmes slash revenants-là?
Ben, là-dessus, deux choses. Probablement qu'il y avait un petit peu peur dans la mesure où ils ont quand même pris des précautions. Je vais lire un extrait, en fait, de l'édition. Donc, arrivé à cette demeure, afin d'éviter toute tromperie, nous avons examiné avec la plus grande attention tout l'édifice et même les tuiles, et non seulement cette maison, mais aussi toutes celles du voisinage. Dans toutes les demeures inspectées, nous avons placé comme garde des hommes bons et honnêtes et évacué tous les habitants, et dans deux endroits plus propices aux subterfuges. Alors, avec mes trois compagnons, nous nous sommes assis sur le lit du défunt, dans la maison en question, avec chacun notre lanterne allumée. Craignant qu'il ne s'agisse d'une illusion diabolique, j'avais pris en secret le corps du Christ au couvent, sans que personne ne le sache sauf moi, et je le portais avec toute la dévotion possible si secrètement que mes compagnons n'en savaient rien. Et un petit peu plus tard, en fait, l'esprit se manifeste avec le bruit. Dès que ce bruit se manifesta devant nous, la femme se mit à trembler violemment, à s'épouvanter et à s'écrier « Le voilà, le voyant, le voilà ». Effrayés dans une moindre mesure, nous gardions le silence et maître Pierre Bruguière, cité plus haut, poussa la femme à demander qui c'était. Celle-ci demandait si c'était Guillaume de Corvaux, défunt. Du milieu de la chambre, une voix faible mais distincte répondit que oui. Alors, débarrassé de toute crainte, je me suis approché avec mes trois compagnons. Alors, cet extrait-là est révélateur parce que les prêtres sont craintifs, mais pas nécessairement parce qu'ils ont peur de rencontrer un revenant, mais parce qu'ils savent pas à quoi ils s'attendent. Puis dès qu'ils comprennent que c'est bel et bien un revenant, c'est bel et bien l'esprit de Guillaume, c'est Guillaume et Guy, là, c'est Guillaume de Corvaux, ben là, ils sont rassurés puis ils ont plus peur. Donc, effectivement, on peut avoir peur parce qu'on sait juste, il y a plusieurs sortes d'apparitions de l'au-delà. Donc, une fois qu'on est certain que c'est un revenant, ben, du moins dans ce cas-là, on n'a plus peur.
OK, mais il n'y a pas de précaution style des cercles de sel ou de la sauge ou de l'eau bénite? Je suis un peu déçu.
Ça n'a pas rapport, en fait. C'est des superstitions. Okay. Je sais pas à quel point est-ce que ces choses-là étaient vraiment communes, mais certainement, c'est dans le domaine de l'hérésie, ce genre de superstition-là.
Comme tu as dit tantôt, dans la mythologie nordique, le lieu que l'âme revenait était important. Et là, tantôt, tu as dit que l'âme revenait en plein milieu de la chambre. Donc, il y a une importance au lieu d'apparition pour le revenant?
Oui, absolument. En fait, c'est une importance qui est cruciale, qui est essentielle. Parce qu'en fait, le revenant, il peut pas revenir n'importe où, n'importe quand. Comme j'ai dit, il y a une raison pourquoi est-ce qu'on revient. Puis cette raison, c'est associé, on pourrait dire, à une mission, à un objectif. C'est juste il y a une raison, il y a quelque chose à faire. Les dragueurs, par exemple, bon, ils restent près de leur tumulus. Puis l'esprit de Guillaume de Corvo, il revient dans la maison, dans la chambre spécifiquement, et non dans une autre. Puis là, ça, c'est lié à la notion de purgatoire, à laquelle on va revenir. Mais pourquoi est-ce que Guillaume de Corvo revient là? C'est parce qu'il a pas accompli quelque chose, il a fait quelque chose de mal. Le fait de revenir, pour lui, c'est une pénitence, c'est une punition. C'est comme ce qui est le cas pour la plupart des revenants. Il est puni pour une action qu'il a fait, qu'il a commis de son vivant, donc un péché, qui n'a pas été expié. Il n'a pas fait pénitence pour ce péché-là. Le péché que Guy de Corvo a commis, il n'est pas précisé explicitement dans l'histoire, mais il a été commis dans la chambre à coucher. Et en fait, Guillaume de Corvo précise qu'il a fait une offense à sa mère. En fait, on suppose que c'est un péché sexuel qui a été commis.
À sa mère ou à sa femme?
À sa mère. Ça implique probablement...
Hey, c'est un plot twist, là. Attends, là, il faut que tu nous mettes à
jour. Y a-tu pour un Oedipe move?
Non. En fait, c'est ce qu'on pense, c'est qu'il y a probablement... Bon, il a couché avec sa femme. Peut-être qu'il n'était pas marié. C'est pas clair. Mais le fait d'avoir commis un péché sexuel avec sa femme, évidemment, et non avec sa mère, ça constitue une offense envers sa mère. Mais il a pas fait le péché avec sa mère. De ce manière, le péché, on n'est pas sûr de ce qu'il a fait.
Hey, c'est mélangeant tout ça.
Ben c'est ça, mais on n'est pas sûr de ce qu'il a fait. Fait que moi, en tout cas, à moins qu'on prouve le contraire, je peux encore clamer qu'il a joué à Oedipe.
Ben le contraire va être prouvé à l'instant parce qu'il vient tourmenter sa femme. Ça implique donc que sa femme, elle aussi, a besoin de purger un péché parce que sa purgation est le fait qu'elle se fait hanter par le revenant. Donc, le péché a été commis dans la chambre à coucher avec, et les deux acteurs, c'est Guillaume de Corvo et sa femme. Et donc, bref, si l'esprit revient dans la chambre, c'est justement parce qu'il doit purger sa peine dans ce lieu-là. Et donc, un revenant, nécessairement, c'est donc un esprit qui revient dans un certain lieu, et le lieu de son retour est intimement lié à la raison même de son retour.
OK. Bon, mais vraiment déçu de l'issue de cette histoire. Je m'attendais à quelque chose de plus crunchy, mais c'est correct. Là, on parle... Ben, en fait, t'as mentionné le purgatoire tantôt, t'as mentionné l'idée de purger une peine. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça?
Bon, le purgatoire. Le purgatoire, c'est assez fascinant et complexe. C'est une invention tardive, dans la mesure où il n'y a pas de référence biblique. Ça part pas de la Bible, le purgatoire. C'est Jacques Le Goff, l'historien, le grand historien médiéviste Jacques Le Goff. Il situe sa naissance environ au 13e siècle avec le substantif purgatorium dans son ouvrage La naissance du purgatoire. Et en fait, ici, il faut faire une nuance parce que l'idée d'une sorte de salvation post-mortem existait déjà avant cette date-là, avant le 13e siècle environ. Mais l'important ici, c'est l'établissement d'un lieu. Le purgatoire, on parle d'un lieu. Et non de la purgation, qui est la notion. Et en fait, donc, c'est un lieu où est-ce qu'on va purger ses peines en attente du jugement dernier. Et pour le comprendre, il faut comprendre c'est quoi les péchés capitaux et les péchés véniels et les indulgences. Et bon, les péchés, tous les péchés sont pas égaux en termes de gravité, c'est un peu évident. Est-ce que voler un marchand riche, c'est équivalent au meurtre d'un innocent dans une église? Ben évidemment pas.
Arguable. C'est pas vrai.
C'est une comparaison qui est extrême, mais ça exemplifie quand même bien la distinction. C'est-à-dire qu'un péché véniel, ça va pas donner une étiquette express pour l'enfer sans retour. Un péché capital, oui. Et donc, plutôt que d'être automatiquement damné à brûler en enfer pour l'éternité parce que t'as volé à un riche marchand, ben un pécheur véniel, on pourrait dire, va devoir purger sa peine dans le purgatoire, donc le lieu dédié à la purgation. Donc, c'est un lieu qui a une composante donc géographique, au même titre que l'enfer ou le paradis. C'est comme le troisième lieu, et c'est un lieu qu'on va purger les péchés qu'on a commis de notre vivant, mais qui n'ont pas été expiés. Puis c'est ça, donc on n'a pas fait pénitence pour ces péchés-là. Et donc, aussi à cette époque-là, donc l'époque du récit, premier quart du 14e siècle, le purgatoire, c'est pas une invention nouvelle, mais c'est encore le sujet à débat. Et donc, le récit, en tant qu'exemple, il y a une idée derrière ça. On cherche à communiquer un message. C'est un traité sur le purgatoire, en un sens, qui s'inscrit donc dans une période, justement, où les composantes, où les modalités, le fonctionnement du purgatoire était encore un peu à définir. Par exemple, plus tard, maintenant qu'on parle du purgatoire, c'est un lieu. C'est le purgatoire, c'est le troisième lieu. On sait pas y est où, mais c'est un lieu défini. Mais à cette époque-là, ou du moins dans ce récit-là, il semble avoir plus qu'un purgatoire. Dans la mesure où il y a le purgatoire commun, qui est le purgatoire maintenant auquel on pense, mais il y a aussi, donc c'est le purgatoire qui a été retenu par après. Il y a le purgatoire aussi qui est individuel et qui est directement lié au péché. Puis ça, c'est pas retenu par l'Église. Or, c'est exactement ça qu'on a dans l'épisode de l'Esprit. C'est-à-dire que la chambre à coucher, c'est le purgatoire individuel, personnalisé, de l'Esprit de Guillaume de Corvo. Donc, on pourrait dire, la forme de ce purgatoire personnalisé, elle dépend beaucoup, elle varie plus que le purgatoire commun. Et elle va dépendre du péché qui a mené à qui nécessite une purgation en premier lieu. Et donc, l'épreuve du purgatoire, parce que c'est pas juste un lieu, le purgatoire, comme on a vu, c'est un état, c'est un passage, c'est une épreuve. C'est individualisé donc à des degrés variables qui, plus tard, donc à travers la suite des débats, cette idée-là de purgatoire individuel ne sera pas retenue. Mais à cette époque-là, c'était encore sur la table et on en débattait encore.
Beaucoup d'informations et beaucoup de questions.
Sur le purgatoire.
Sur le purgatoire. Donc, dans le purgatoire commun, est-ce qu'il y avait plusieurs groupes de personnes? Là, on a parlé de purgatoire personnel, mais est-ce qu'on passait du purgatoire personnel au purgatoire commun? Comment ça fonctionnait? Y avait-tu des règles de vie?
Ben, en fait, dans le récit, oui, parce que tout le monde est dans le purgatoire commun, c'est sûr. Puis l'esprit de Guillaume de Corvo, il y a un purgatoire double. Donc, il y a son purgatoire personnel, donc, qui est dans la chambre, mais il y a aussi le purgatoire commun. Puis il fait un peu des va-et-vient. Pendant un certain temps, il doit être au purgatoire commun. Puis après un certain temps, là, il retourne à son purgatoire personnel, puis ça va un peu comme ça. Le purgatoire commun, c'est pas aussi personnalisé que le purgatoire personnel, mais ça, il peut avoir certaines variantes justement à cause que on accède au purgatoire pour des raisons qui sont différentes et en fonction de la gravité des péchés commis, on est généralement tous punis de la même manière, mais ça va être, on pourrait dire, la durée qui va varier généralement. Donc le purgatoire commun, c'est surtout la durée qui va varier, donc la durée de séjour au purgatoire, alors que le purgatoire individuel, ben là, ça dépend entièrement de l'individu et du péché qu'il a commis.
Puis, c'est peut-être moi aussi là, qui est dans le champ, mais j'ai toujours eu comme idée que, mettons, l'enfer comme le purgatoire, en fait, des endroits où est-ce qu'on allait expier nos péchés, c'était comme meublé par le feu, la glace, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose de très moderne, puis maintenant on se l'imagine comme ça, ou c'est déjà quelque chose qui pouvait être associé au purgatoire à l'époque médiévale?
Non, en fait, oui, effectivement, le purgatoire, c'est associé au feu. C'est effectivement ça. Et l'enfer aussi, mais pour des raisons différentes. Le feu du purgatoire, c'est un feu qui va permettre, c'est purificateur en un sens. C'est le feu qui, oui, ça fait souffrir, ça brûle, ça fait mal, mais c'est un feu qui va servir à purifier, on pourrait dire, les péchés que tu as commis, à les purger. Alors qu'en enfer, c'est un feu qui est punitif en un sens. Il va rien purifier, il va juste te brûler à l'infini. Et en fait, donc, c'est ça. La purgation par le feu, c'est surtout ça qu'on avait avant le 13e siècle. Hein. Avant qu'on ait vraiment un lieu, puis que c'était juste une notion ou un concept, c'était la purgation par le feu. Donc, c'est le feu en brûlant, ça permet de purger tes péchés. C'est son aspect purificateur. Et le feu du purgatoire est intéressant parce qu'il faut garder en tête que c'est un feu qui est différent que le feu, on pourrait dire, réel, entre guillemets. Parce que du vrai feu, qu'est-ce que ça brûle? Ça brûle les corps, c'est corporel. Or, dans le purgatoire, c'est des âmes. Donc, c'est du feu, mais c'est un feu qui est différent. Et dans le livre Les traits régisseurs du duc de Berry, qui est un manuscrit, un livre d'heure extrêmement connu, une enluminure de Jean Colombe dépeint des purgatoires, des pêcheurs, des âmes, dans le purgatoire, dans une sorte de rivière de flammes. Mais la rivière en soi, elle est uniquement composée de ces pêcheurs-là qui brûlent. Il n'y a pas de feu dans lequel les pêcheurs y sont. Ce sont les pêcheurs qui constituent le feu. Et c'est ça la nuance. C'est un feu qui est spirituel, qui part et qui finit avec les pêcheurs qui brûlent. C'est pas, par exemple, un espèce de brasier dans lequel on peut, comme des bûchers, par exemple. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que le vrai feu ne brûle que le charnel. Et donc, pour brûler le spirituel, ça prend un feu qui est différent. Mais le feu, en tant qu'on pourrait dire concept, là, le fait de brûler, c'est effectivement associé à la purification et la purgation.
Ouais, ben ça me fait penser d'ailleurs comme le fait que tu parles de rivière d'âme, mais dans l'imaginaire grec de l'Hadès, justement, il y a quand même plusieurs rivières qui passent dans l'Hadès, comme le Léthé, si je m'appelle. Je les connais pas toutes là parce que je m'intéresse pas beaucoup à la mythologie, mais ouais, le Léthé, le Styx, comme des rivières qui justement au final, ben Achille il était trempé dans le Styx.
C'est là que je plug Percy Jackson.
Oui, ben Percy Jackson a aussi été saucé dans le Styx, dans ben le oui. quatrième livre, cinquième, en tout cas. Mais oui, puis si jamais il tombait dedans, ben c'était la fin, là. C'est pour ça qu'il fallait le tenir. Achille est tenu par le talon, pour cette raison-là, sinon c'est fini. Mais oui, bref, c'est pas de ça dont je voulais parler, là. Je suis désolée pour l'excursus. J'avais une question qui a vraiment pas rapport avec ton sujet, puis je me demandais si tu savais la réponse, mais justement, l'idée du bûcher... Est-ce que c'est dans une idée de purifier la personne dans la mort, justement? C'est pour ça qu'on brûlait les sorcières? C'est l'idée qu'elles avaient justement forniqué avec le diable, quoi, par les flammes, on les purifiait, je sais pas.
Ben, probablement. Il y a peut-être le fait aussi que brûler, ça fait mal, et donc c'est comme une punition extrême pour un péché extrême. Ils vont être considérés comme extrêmes. Mais oui, le feu, c'est, je veux dire, comme j'ai dit, c'est considéré, c'est le feu, ça fait mal, mais ça purifie, à part le feu de l'enfer. Mais, et donc, le fait de brûler sur le bûcher, qui est généralement réservé aux hérétiques et aux sorciers, aux sorcières, ben, c'est probablement, effectivement, de les purger de ce gros péché-là qu'ils ont commis. Peut-être.
Peut-être.
C'est vraiment intéressant. Vraiment. Mon Dieu, on a parlé beaucoup du feu, je m'attendais pas à ce qu'on parle autant de feu. Mais pour résumer, le don Guillaume de Corvo, notre chère âme est revenant, donc il vit son purgatoire en deux temps. Donc juste pour résumer, pour comme que tout le monde comprenne ce qui s'est passé juste maintenant.
C'est ça, oui. Donc c'est une épreuve double, une purgation qui est double. L'épreuve du feu, donc, qui est le purgatoire commun, puis lui, il est pas le seul à aller là, c'est là où est-ce que tous les esprits se réunissent. On implique aussi qu'à ce moment-là, on considère toujours que le purgatoire est double. C'est pas le seul dans cette situation-là. Et donc, à ce moment-là, on considère que le purgatoire, c'est donc, oui, le purgatoire commun, mais auquel on doit ajouter une punition ou une purgation qui est personnelle. Et donc, dans le cas de Guillaume de Corvo, c'est d'aller hanter sa femme dans la chambre parce que, on se rappelle, c'est là qu'il a commis le péché.
OK. Puis là, Guillaume de Corvo, justement, lui, il est revenu des morts. En tout cas, il y a eu une âme dans le monde des vivants. Puis, ça fait en sorte... Ben, je recommence cette question-là, c'est vraiment... Je sais pas où je m'en allais avec ma réflexion.
Revenant, revenu qui est revenu.
Ouais, c'est parce qu'on parle trop de revenants, là. Moi, j'en reviens pas. Ouais, ce que je voulais dire, en fait, c'est que ça arrivait quand même une fois de temps en temps, ou assez pour que les religieux soient au courant, justement, qu'un revenant puisse revenir. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment une relation entre les vivants et les morts au Moyen-Âge? Est-ce que c'est assez pour qu'on en parle, mettons?
Oui, oui, on peut en parler.
C'était-tu dans le quotidien? Tu sais, ça arrivait-tu à chaque semaine dans le village, quelqu'un dit « Coudon, j'ai vu mon oncle Martin qui était près, je sais pas, du puits ou la chambre à coucher pour insulter sa mère », tu sais, comment ça...
Je sais pas si c'est commun à ce point-là, mais pour ce qui est de la relation entre les vivants et les morts au Moyen-Âge, ça dépend. Le Moyen-Âge, c'est 1000 ans à peu près, bon, ça peut être plus que ça. Moi, personnellement, je pense que c'est plus que ça, mais... Donc, pour le, mettons, le haut Moyen Âge, moins au courant, mais bon, ça, on hérite encore des conceptions antiques avec les nécropoles et tout. Mais plus on avance, plus effectivement on se rapproche des morts. Hein. Les nécropoles, c'est loin, on veut pas les avoir nécessairement dans les villes avec nous. On veut les avoir loin. Mais plus on avance dans le temps, plus les vivants et les morts se rapprochent avec notamment les cimetières dans les églises ou en périphérie. Et au 14e siècle, donc, les vivants et les morts ont une relation très, très, très proche avec une liturgie des morts qui se développe beaucoup à cette époque-là. Et en fait, bon, cette proximité-là, quelques années plus tard, là, on est en 1323, ben, 20 ans plus tard, à peu près, ben, il y a la peste noire. Puis, à la sortie duquel, bon, l'iconographie, l'imaginaire va être marquée à jamais, avec, mettons, les danses macabres et choses comme ça. Bon, alors, la mort, vraiment, a une partie importante dans le quotidien des vivants, avec, bon, les messes des morts ou d'autres services liturgiques. Et à cet effet-là, il y a l'ouvrage de Jacques Chiffolo, qui était le directeur de thèse à M. Méhu, par ailleurs, qui a écrit un livre, La comptabilité de l'au-delà. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'au 14e siècle environ, à cette époque-là, on a une relation de devoir envers les vivants ont un devoir envers les morts. Ils doivent accomplir donc une série de rites, des dons, destinés à l'âme des morts, puis ça, c'est indissociable de la notion de purgatoire. Parce que, bon, premièrement, ça suppose la croyance que les vivants ont un certain pouvoir sur les morts. Ils peuvent interagir avec eux d'une certaine manière, ou ils ont une incidence, on pourrait dire, sur leur état, les esprits au purgatoire. C'est eux que ça concerne principalement, et les vivants, leur devoir, du moins pour leurs proches au purgatoire, ben c'est de réduire leur peine à travers une série, on pourrait dire, d'obligations diverses ou de rites qui vont permettre d'alléger ces peines-là.
Super explication. Pour revenir à notre cher Guillaume, donc cette liturgie des morts-là, comment s'applique-t-elle à Guillaume?
Tigui,
pour les intimes.
En fait, ça c'est tout centré autour de la notion des suffrages. Les suffrages, c'est, on pourrait dire, c'est les actions pieuses des vivants en faveur des défunts. C'est ça la définition que Marianne Polo de Beaulieu, qui est elle qui a fait l'édition du récit, c'est ça la définition qu'elle donne. Donc les suffrages, c'est donc les messes collectives, des prières, n'importe quoi, qui sont en faveur, on pourrait dire, des défunts. Et donc, c'est là qu'on peut ajouter la notion des indulgences aussi, qui s'est développé vraiment en même temps que l'idée du purgatoire. Les indulgences, donc, c'est un montant d'argent qu'on va payer à l'Église afin d'abréger son propre temps au purgatoire. Donc là, il y a une différence parce que oui, là, c'est une relation de vivant à mort, mais avec une seule personne. C'est le vivant qui interagit avec lui-même dans le futur lorsqu'il sera mort. Et donc, par exemple, un individu qui va pêcher, il va voler une pomme à un riche marchand, le pauvre riche marchand auquel on vole tous ses biens. Il se voit infliger une peine de 6 ans de purgatoire, par exemple. Ben, l'individu va pouvoir payer un certain montant à l'Église pour diminuer ce temps-là. Mettons, il paye 500$, et puis il va réduire sa peine de 3 ans. Puis cette mesure-là, bon, ça a été assez controversé. C'était pour que l'Église s'enrichisse, essentiellement. Et c'est notamment une des principales doléances de Martin Luther pendant la réforme au 16e siècle. Mais bon, l'idée ici, c'est l'accroissement de l'agentivité des vivants à l'égard des morts. Donc, ils sont de plus en plus en mesure d'influencer le parcours des morts. Et surtout, c'est, on pourrait dire, c'est la qualité, en guillemets, de leur expérience, dans le sens que avec les suffrages, donc, on va pouvoir intervenir sur, par exemple, le temps du purgatoire, aussi la souffrance elle-même, bref, intervenir directement sur l'expérience du mort.
OK, un peu comme à ce moment-là, mettons, pour les vivants, tu pouvais comme acheter tes péchés ou comme en faisant des dons à l'Église, ben tu réduisais toi aussi pour toi ton temps au purgatoire ou ton temps en enfer ou peu importe. Ben c'est un peu le même principe, mais avec une personne qui est déjà morte, mettons.
C'est ça, l'indulgence donc qui est pour toi-même, puis les suffrages qui est pour les autres. Puis dans le cas de Guillaume de Corvo ou Tigui, il représente une sorte d'un idéal type, un modèle type là, du mort qui est pris au purgatoire. On se rappelle que c'est un exemple là, c'est pas juste pour le loisir, il y a un raisonnement derrière. c'est dans la mesure où ses propres besoins en matière de suffrage représentent ce que l'auteur, au final, il pense ou il pensait qu'il devait être fait en général pour les morts. Puis il incarne l'opinion de l'auteur. Puis donc, en l'occurrence, Guillaume de Corvaux, il insiste sur l'importance de certains psaumes, donc les 7 psaumes pénitentiels, donc le 6e, le 31e, le 37e, le 50e, le 101e et le 129e. Ah, et aussi le 142e. Je ne les connais pas par cœur, mais c'est ça qui est écrit. En plus, les psaumes Magnificat et Beatus, de même que le Placebo et le Dirier. Puis, ce que ça a comme effet, comme j'ai dit, c'est que ça influence non seulement le temps de purgation. Donc, tu vas faire ces messes-là, ça va diminuer leur temps, au même titre que les indulgences réduisent son propre temps à l'avenir. Mais aussi, ça influence, comme j'ai dit, la qualité de son séjour au purgatoire. Puis, il y a un échange très révélateur entre Guillaume puis le prieur, qui, en fait, durant l'interrogatoire, l'esprit, il interrompt un peu l'interrogation pour demander au prieur de réciter 5 fois les 5 joies de la bienheureuse Marie. Puis sans quoi il serait trop épuisé pour poursuivre l'interrogatoire. Et aussi, il dit que le placebo et le dirigé, il soulage le défunt des flammes qui le brûlent constamment. Donc ça réduit non seulement le temps, mais aussi on pourrait dire les souffrances qu'il va subir. Et donc, considérant ça, c'est pourquoi est-ce que les vivants donc ont le devoir de faire ça pour les défunts.
OK. Puis toute cette histoire-là, au final, elle commence quand même avec un moment clé. Deux moments, en fait, là, deux éléments déclencheurs. Le premier d'entre eux, on n'en a pas du tout parlé. Le deuxième, c'est le retour de Guillaume de Corvaux. Mais le premier élément déclencheur, c'est sa mort à Guillaume de Corvaux. Puis est-ce qu'on en parle dans le texte du moment de la mort, de comment il vit ça?
En fait, pas tant que ça, au final. Le moment de la mort, c'est quelque chose sur lequel, oui, le prieur s'interroge, mais le texte va surtout se pencher sur l'après-mort. Donc, où est-ce qu'on est après la mort, puis qu'est-ce qui arrive, on pourrait dire, à l'esprit défunt? Évidemment, on sait qu'il va au paradis, il va en enfer, bon, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique d'aller au paradis? Qu'est-ce que ça implique d'aller en enfer? C'est surtout ça. Donc, parce que le moment de la mort, concrètement, c'est, on sait que, bon, l'âme va se séparer du corps, puis après ça, elle va aller paradis, enfer, purgatoire, ça dépend. Mais au-delà de ça, c'est pas tout à fait tant évoqué dans le texte.
Puis, ça m'amène à te poser comme question. Donc, le récit, tu l'as dit, c'est un exemplat. C'est bien ça?
Un exemplum.
L'exemplum, pardon. C'est l'historienne contemporaine qui se mélange dans les termes. Rose est habituée. Mais donc, l'auteur de cet exemplum prend donc position sur des débats chrétiens qui entouraient la mort. Donc, c'est vraiment une prise de position techniquement.
Oui, c'est ça. C'est ça le but du récit. L'entièreté du récit, c'est un traité sur le purgatoire essentiellement et aussi sur la vision béatifique. Donc, l'auteur prend position sur le purgatoire, donc purgatoire commun et individuel. Juste de définir ça, c'est une prise de position parce que c'était sujet à débat. Aussi sur les suffrages, comme on a vu, donc qu'est-ce qu'on doit faire comme messe pour les morts, parce que ça peut varier. Et sur la vision béatifique. Donc, ce que je veux dire par là, grosso modo, c'est la vision béatifique, c'est la vision qu'on a de Dieu après la mort. Donc, c'est surtout ça qu'on va s'interroger sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Et ça, c'est Thomas d'Aquin s'est beaucoup intéressé là-dessus. Mais c'est l'idée qu'à la mort, l'esprit du défunt, il voit Dieu, entre guillemets. Puis, cette vision-là, par contre, c'est une vision qui est double. C'est pas seulement visuel, c'est aussi intellectuel. Dans la mesure que quand on voit Dieu, et donc on le connaît, on le comprend. C'est pour ça que le prieur va beaucoup interroger l'esprit sur les connaissances qu'il a acquises après sa mort. Le prieur va lui demander, OK, est-ce que tu connais la science de telle affaire? Parce qu'à ce moment-là, il y avait des débats sur la vision béatifique et surtout à Avignon. Et donc, on voulait savoir qu'est-ce que ça impliquait. Et le débat, ça concernait le moment de cette accession-là ou de la vision. Il y avait deux côtés, évidemment, c'est ça le principe d'un débat. D'un côté, on pensait que dès le moment de la mort, on voyait Dieu autant visuellement qu'intellectuellement. Du moins pour les justes. Les damnés, ils sont pas là. De l'autre, puis ça c'est la position qui est défendue ici dans le traité, c'est que c'est une séparation, ou du moins c'est une vision qui s'établit en deux temps. Le premier, on accède donc à une connaissance, une certaine connaissance à l'instant de la mort, donc l'aspect intellectuel de la vision béatifique, d'où les connaissances donc acquises par l'esprit après sa mort, parce que l'esprit donc connaît certaines choses qui sont dues au fait qu'il est mort et qu'il est un esprit. Mais la vraie vision béatifique, l'aspect visuel donc de la vision béatifique ou la vision béatifique va être seulement complétée après le jugement dernier, lorsque les justes vont être admis pour de vrai au paradis auprès de Dieu. Et c'est pourquoi parfois certaines questions que le prieur va poser à l'esprit, il va dire que il n'a pas encore accès à cette information là. Ça va venir après le jugement dernier. Et donc, c'est un peu les principales positions, donc les deux positions qui s'affrontaient durant la querelle sur la vision béatifique qui ont déchiré un peu la cour ecclésiastique d'Avignon environ 10 ans plus tard. Même que, en fait, ce traité-là, on suppose que à cette époque-là, je pense que c'était le pape Jean XXII ou quelque chose de même, lui, il défendait la position du traité et on pense que ce traité-là aurait influencé sa position dans ce débat-là.
Ok, my god.
Tigui a eu beaucoup d'influence.
Ouais, Tigui, c'est lui qui a tout changé. Eh ben, merci beaucoup, Gabrielle, d'être venue. Ça a été vraiment plaisant, puis d'explorer ces sujets-là. Moi, j'avais fait une exo dirigée sur la mort en Grèce ancienne, puis évidemment, c'est complètement différent, là. C'est vraiment 100% différent. On a juste parlé des nécropoles 30 secondes, puis on a déjà vu que c'était très différent d'un cimetière chrétien. Mais j'ai vraiment aimé ça, en apprendre plus là-dessus. Puis c'est un sujet qui est quand même assez complexe aussi, mais je pense que tu as su le résumer avec brio. Donc,
Merci.
Belle main d'applaudissements. Ça a été une belle exploration des revenants du purgatoire, du feu, des suffrages. On a vu tellement de choses.
Oui.
Puis j'espère que tu as apprécié autant que nous d'être
venu. Absolument.
Puis pour nos auditeurs, on se dit à une prochaine fois. Ou comme Rose le dirait.
À la prochaine!